Et bonjour à tous, d'abord. C'est vraiment sympathique de ces échanges de chair parce que finalement, on se connaît un peu plus. Certains, on se connaît pas, mais d'autres, on s'est déjà vu et c'est vraiment un plaisir et une joie de se voir. Et ça coûte pas cher. Merci Jean-Charles. Et d'abord, je vous donne les salutations des antibiotiques. C'est les gens d'Antibes. Et voilà, c'est vraiment une réjouissance. Merci Sandra pour ta présidence. Alors toi, t'as su il y a une demi-heure, mais moi, ça fait depuis hier que je sais que je viens ici. Mais voilà, on est sous le regard de notre grand Dieu et on se laisse guider. Et merci parce que j'ai pas à faire l'introduction, puisque tu l'as déjà faite. En fait, j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse, qu'on parle un petit peu de notre système de croyance, la foi, système de croyance, religion, religiosité, ou bien relation à Dieu. En fait, tout est là. Est-ce que c'est l'homme qui crée son propre Dieu avec son propre système de valeurs, ou est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme, comme il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre? Évidemment qu'on est plutôt dans cet aspect-là. On va lire, si vous voulez bien, dans Genèse 11, il y a un texte qui me parle pas mal sur ce qu'est la religion. C'est l'histoire de la tour de Babel. Genèse 11 au verset 1. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. » Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre, pardon. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qui les a dispersés sur toute la terre. Voilà un texte qui nous parle, qu'on apprend déjà dès l'école du dimanche. Ça serait trop fort qu'il fasse ça ce matin. Mais c'est un texte qui me parle parce qu'il parle de religiosité, de religion. Et la première chose qu'ils disent, c'est ce peuple qui est en migration. Ils disent, on va se construire une ville, et ça me fait penser évidemment à la religion, parce que une ville, c'est un lieu où on se rassemble. Et dans la ville, il y a un système de lois pour vivre ensemble, hein, il le faut bien. Et pour aller aussi dans la même direction, ils se bâtissent une tour. Littéralement, dans le texte en hébreu, c'est une maison à tête surélevée. Ce qui évoque une maîtrise de ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire qu'on prend quand même la place de Dieu, et littéralement on veut aller jusqu'au ciel. Il y a des versions qui disent qui pénètrent le ciel. C'est vraiment cette volonté d'accéder à Dieu. Voilà, la tour, ben, c'est le lieu le plus élevé de la ville, là où on pense... Peut-être, c'est une image, évidemment, avoir une connexion avec le divin. Et finalement, l'histoire de Babel, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui vraiment désirent se reconnecter avec Dieu. Et faisons-nous un nom, parce que c'est important d'avoir un nom, parce que s'il n'y a pas d'identité, eh bien, on n'est personne. Dieu lui-même a un nom. Et eux-mêmes se sont déconnectés de Dieu et ils ne portent plus le nom de Dieu. Finalement, on vient de créer une religion. Parce que une religion, quoi, c'est quoi? Ce sont des personnes qui se rassemblent, comme dans une ville, qui vont créer un système pour s'approcher de Dieu et ils vont se donner un nom. On connaît, hein, l'islam, l'église, le catholicisme, le christianisme, des ismes, il y en a de partout. Et plus le système religieux est complexe, et plus on y trouve notre compte, j'ai envie de dire, pour l'étudier, et puis on se construit même des niveaux de sainteté, finalement, qui bien des fois n'ont rien à voir avec la Bible. Le texte ici est riche de verbes, allons, construisons-nous, faisons-nous un nom, etc. C'est des verbes qui montrent bien que ce sont les hommes qui font avec leur propre force. Pourquoi je parle de ce texte? Parce que c'est un danger pour nous de tomber dans la religiosité et finalement d'atterrir dans un système religieux et non plus d'être dans une relation avec Dieu. Moi qui suis tombé dans la marmite chrétienne, comme disait Astérix étant petit, j'ai fait l'école du dimanche, j'ai grandi, je suis allé à l'église tout le temps, j'ai mené une vie quasiment parfaite. Non, c'est faux, je vous rassure. Mais j'ai suivi le système. Pourquoi? Parce que le système, il est rassurant. Finalement, on apaise notre conscience, on vient à l'église tous les dimanches, et on rentre dans le système. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, le fait d'entrer dans le système chrétien, on va dire, entre guillemets, qui m'apaise ma conscience, et puis finalement, j'essaye de, quelque part, de gagner l'amitié de Dieu. C'est un peu ma tour de Babel à moi, on va dire. Et Jésus, il dit, faites des disciples, mais pas des religions, pas des religieux. Voilà, et quand on met un système en avant, bouddhiste, chrétien, etc., finalement, on se met au pied de la tour, imaginons une tour au milieu d'une ville, on se met en bas, et qu'est-ce qu'on voit? On voit plus que la tour. On voit plus que le système religieux, alors que s'il n'y a pas de tour, on voit le ciel. On voit Dieu directement. Et en fait, c'est un petit peu ça, dans l'application, première application, on va dire, c'est que quand je témoigne de ma foi à mes amis, merci Manu pour ton témoignage, quand je témoigne auprès de musulmans, moi actuellement je suis assez, je suis en contact avec des bouddhistes. Finalement c'est le même système, mais quand je leur témoigne, est-ce que je parle de mon système? Est-ce que je parle de mon église? Alors si je parle de mon église, que je parle de mes frères et de mes sœurs, c'est super. Mais si je parle de mon église en tant que système religieux, je leur mets la tour en face des yeux. Je leur cache la face de Dieu. Je l'ai fait, hein. Tu ne veux pas venir à mon église, les gens ils sont sympas, tu verras. Et puis on boit un café avant, et puis on chante, il y a une bonne musique, etc. Je parle du système, mais je parle pas de ma relation avec Dieu. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant de témoigner en parlant de ce que je vis avec mon Seigneur, hein, comment il m'a transformé, comment il me montre son amour tous les jours, quel pays il me donne, quelle joie il m'a donné quand je vis un moment difficile, un enfant qui est malade, des amis qui ça va pas dans votre vie, puis vous avez on a le vélo comme ça qui tourne, puis tout d'un coup Dieu il vous donne cette joie un peu surnaturelle, un peu comme si vous faisiez une piqûre de joie. Vous comprenez pas pourquoi, parce que les circonstances ne sont pas là pour que vous soyez joyeux, et le Seigneur vous donne cette paix et cette joie surnaturelle, on va dire. Voilà, ça, ce sont des témoignages qu'on peut apporter. Mais si je parle de la tour, de mon système religieux, je cache Dieu dans mon témoignage. Nos amis, ceux qui connaissent pas le Seigneur, et nous-mêmes aussi, on a tous notre conception du bien et du mal. j'ai envie de dire que ce peuple-là, sous l'égide de Nimrod, puisque c'est lui qui conduit ce peuple-là, on a tous cette notion du bien et du mal, mais Dieu nous demande de ne pas aller manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a ce qui me semble bien, ce qui me semble juste, ce qui me semble mal, ce qui me semble faux. Mais le Seigneur me demande d'être connecté à lui dans ma relation pour que lui, à travers sa parole, me dise ce qui est juste ou faux, ce qui est bien et mal. Mais si je me déconnecte de Dieu et que je me rattache à ma propre conscience, il découvre une vaste plaine, et on sait que c'est une plaine qui était plate, etc., où il n'y avait pas d'embûche, et se disent, on va construire une ville, parce que c'est ce qui leur semblait bien. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on le voit plutôt, Dieu il dit à Adam, mais voyez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Il y avait cet ordre de Dieu de remplir la terre. Et eux, au lieu d'être dans cet élan, eh bien, ils s'arrêtent et ils construisent cette ville. Pourquoi ? Parce que c'est certainement ce qui leur semblait bon pour eux, se protéger, etc. Et je crois que dans notre vie, pour une deuxième application, on va dire, eh bien, nous-mêmes, nous devons rester connectés avec Dieu et faire attention à ce qui nous semble bien ou mal, juste ou faux. C'est déjà un premier pas, mais ce qui est important, c'est d'être connecté avec Dieu. Être déconnecté de Dieu, c'est ce que Paul appelle l'homme livré à lui-même. Être connecté, être branché, s'abreuver de cette parole de Dieu, de la prendre, de l'étudier, de la manger littéralement, pour que nous soyons connectés avec lui, pour qu'il nous dise ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire se connecter à l'arbre de vie, finalement, du jardin d'Éden. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et j'aime bien dans ce texte, au verset 5, « L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. » Dieu ne va pas laisser le projet des hommes s'établir, puisque sa volonté, c'est que les hommes remplissent la terre. Et là, il y a un arrêt des hommes, un arrêt du projet de Dieu. Ce que j'aime, c'est que il est dit que l'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. C'est toute l'histoire biblique, c'est un peu ce que tu as dit. Adam et Ève pêchent, Dieu va rencontrer Adam et lui pose la question « Où es-tu ?» Caïn va tuer Abel, son frère, Dieu descend, et il va questionner Caïn, et va lui dire « Mais où est ton frère ?» Et chaque fois, et c'est pareil dans toute la vie comme ça de l'histoire biblique, Dieu va sauver une famille, Noé, pour que la race humaine elle puisse continuer. Jacob, etc., Abraham, tout ça, c'est des rencontres où Dieu vient rencontrer l'homme. Et Dieu vient ici descendre pour voir ce qui se passe. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand je m'éloigne de Dieu, quand je me déconnecte et quand je vais trop loin, Dieu descend à ma rencontre et il me dit « Éric, où es-tu ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu construis une tour ? Tu te fais un nom ? C'est bien. Mais moi, mon projet à moi. Hein ?» Voilà, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à chacun de nous. Et dans cette fidélité, Dieu vient nous rencontrer. Et ça me fait penser à une troisième application. Quelles sont les épreuves? Parce que c'est une épreuve pour eux, la confusion du langage. Imaginez, on se comprend plus là tout d'un coup. Mais quelles sont les épreuves que Dieu envoie dans ma vie, dans notre vie, et en quoi elles me font grandir? Et j'ai marqué comme ça que les épreuves réorientent opportunément ma vie et elles me remettent sur la bonne trajectoire avec Dieu. Alors c'est dur une épreuve. Mais si je sais que Dieu vient me rencontrer et veut me donner du sens à cette épreuve et qui veut me faire repartir, comme ce peuple, à la fin, il est dit que ils sont repartis, Dieu les a dispersés sur la terre. Et j'ai noté quelques phrases, je ne sais pas de qui c'est, mais j'aime bien, qui dit que les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Les épreuves fortifient notre foi. Les épreuves nous apprennent à prier. Les épreuves nous apprennent à aimer. Les épreuves nous enseignent la patience et le courage. Les épreuves nous rendent aptes à aider les autres. Parce que quand j'ai vécu un moment difficile et que je vois une sœur, un frère vivre le même moment, eh bien, je peux l'aider. Et en tout cas, les épreuves sont des occasions de victoire pour notre foi. Quand on les traverse dans la confiance en Dieu, eh bien, c'est une victoire pour nous. 2-3 mots sur le brouillage du langage, sur l'unité. Pour moi, Babel, c'est vraiment la fausse unité. Ce sont des hommes qui se rassemblent, qui prennent la place de Dieu et qui se croient les tout-puissants et ils parlent ce même langage. C'est la fausse unité. On parle souvent de Babylone, la grande Babylone. Vous avez certainement entendu parler de ça déjà et qui fait référence à la religion mondiale, etc. Peut-être, c'est vrai, c'est certainement la première religion mondiale. En tout cas, c'est la première fois que des hommes se rassemblent pour essayer d'accéder à Dieu. Il y a 10 générations de Adam à Noé, 10 générations de Noé à Abraham, 10 générations qui montrent au début qui montrent la patience de Dieu envers des hommes et leurs familles et leurs descendants. Et là, ce sont des hommes qui sont ensemble, qui s'unissent. Les verbes sont au pluriel, allons, moulons des briques, etc., cuisons-les au four. Tout ça, c'est la première personne du pluriel, ça montre bien la pluralité. Et tous ensemble, ils s'unissent pour atteindre Dieu. Il ne faut pas confondre unité et uniformité. Ici, c'est l'uniformité. Chaque personne prend le même langage, c'est la même culture, c'est la même, on se moule, d'ailleurs, il y a un jeu de mots, moulant des briques, finalement, on va faire toutes les mêmes briques, il y a cette loi de la série des briques qui se ressemblent, et c'est un petit peu, j'ai l'impression, pareil avec ce peuple qui s'unit, et finalement, on est tous pareils pour atteindre Dieu. Dieu ne veut pas l'uniformité, Dieu respecte les caractéristiques de chacun. On est tous différents. D'ailleurs, à la Pentecôte, on va voir que le même message de l'Évangile va être donné dans des différentes langues, crétois, arabes, etc., des gens qui se rassemblent. Dieu respecte la culture, la personnalité de chacun. Il veut que nous soyons unis dans nos caractéristiques différentes. Lui qui est, comme tu l'as dit, 3 personnes en un seul, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est une pluralité, ce sont des personnes différentes qui forment qu'un. Et c'est la même chose pour le peuple de Dieu, nous sommes différents. Je suis heureux que nous soyons dans des églises différentes. Enfin, nous appartenons à la même famille, on s'en réjouit, on est différents dans la forme, etc. Mais c'est une richesse pour moi. Et pour Christine, elle me l'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, mais on est dans la famille, on se sent bien, on n'a pas la même manière peut-être d'aborder le culte. Tant mieux, il y a des églises différentes, il y a des familles différentes d'églises, tant mieux, on est différents, mais on a le même message de l'évangile que nous proclamons, les prières, on sent bien l'esprit, un seul et même esprit qui anime chacun dans nos prières, dans nos chants, qui montre bien ce que Dieu a fait dans nos vies et comment il nous a transformés. Dieu a créé l'unité dans une prodigieuse diversité. Chacun est unique et chacun veut ressembler à Jésus dans ce caractère unique que nous sommes. Donc, pas confondre uniformité et unité. Je sais pas combien de temps il me reste. j'ai un stress avec l'heure. Je suis désolé. En troisième partie, j'ai envie de parler de Jésus parce que on a parlé du système religieux, mais maintenant, on va essayer de développer. C'est bon? 11h30? Bon, on a encore une heure. On a parlé de du système religieux, mais maintenant on va essayer d'approfondir un peu notre relation à Dieu. Et quand on lit l'histoire de Jésus dans les évangiles, on voit vite que Jésus qui est juif, qui va à la synagogue, qui va respecter la loi de Dieu, etc., on se rend compte qu'il sort du groupe religieux. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit aller à la rencontre de personnes et de femmes, d'hommes et de femmes, et il va vraiment les rencontrer dans du un à un. Il sort du groupe. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et il y a une histoire qui me fait toujours du bien, c'est dans Jean 4, avec la femme samaritaine. Il la rencontre au puits de Jacob, et de suite, il n'y a pas l'histoire de religion. C'est Jésus qui la rencontre dans ce qu'elle est. Il y a une relation qui s'établit, et cette femme, elle va vite se rendre compte que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Elle va lui dire, tu es prophète, un spécialiste de Dieu, on va dire, en quelque sorte. Et aussitôt, dans le texte, elle lui pose la question, où est-ce qu'il faut adorer? Aussitôt. Où est-ce qu'il faut adorer? Ici ou à Jérusalem? Et quand on creuse cette question, la question n'est pas stupide, parce que le peuple d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, avec Josué, donc Moïse est décédé, il y a deux lieux de bénédiction, il y a le mont Garizim, où Dieu va bénir le peuple, et il y a le mont, je ne sais plus son nom, je l'ai noté, non, c'est pas Moria, c'est Ebal, c'est ça, où il va prononcer la malédiction, et donc Dieu il dit, ben choisissez, il dit au peuple, choisissez, donc le peuple il dit, ben Garizim, évidemment, nous on veut la bénédiction, comme nous tous, j'ai envie de dire. Et voilà, et mon Garizim, c'est où? C'est en Samarie, c'est là où il y a cette femme samaritaine, et eux, ils se disent, mais c'est ici qu'il faut adorer, puisque c'est ici qu'il y a le lieu de la bénédiction. La question n'est pas stupide, parce qu'à Jérusalem, à cette époque-là, c'est un peu n'importe quoi au temple, puisque c'est les Sadducéens qui ont pris le pouvoir, etc. Alors ça aurait dû être les fils d'Aaron, etc. Et Jésus va même chasser les marchands du temple, parce qu'on voit bien que le temple... C'est... Donc, mettons-nous à la place des Samaritains, qui voient ce qui se passe au temple, ils se disent, mais finalement, le lieu de la bénédiction, il est ici. Donc, elle pose cette question. Et finalement, la question, c'est quoi? Quel est le bon système religieux à adopter? Est-ce que je dois adopter le système samaritain ou est-ce que je dois adopter le système de Judas à Jérusalem? Et Jésus, il répond, mais c'est fini. Il vient l'heure où ce sera ni ici ni à Jérusalem, mais on va adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est dans notre relation avec Dieu. C'est toi et Dieu. J'aime bien la pédagogie de Jésus. Il ne lui dit pas, non, tu ne sais pas ce que tu racontes, tu as tort, etc. Mais je trouve la réponse est pertinente, parce que à Jérusalem, le temple, c'est pas le peuple juif qui s'est dit comme ça, tiens, on va construire un temple pour Dieu. C'est Dieu qui a demandé au peuple de construire le temple. Et le peuple a obéi à Dieu quand ils ont construit le temple. Et je me dis, dans ma vie, c'est souvent, si je suis connecté avec, comment dire, je suis connecté avec Dieu, Dieu va me demander de faire des choses, il a des projets, il a des plans qu'il a préparés d'avance pour moi, je vais les accomplir. Et quelquefois, Dieu me dit, arrête, ce projet-là, il est à moi. C'est un peu comme l'arche de Noé. Dieu va demander à Noé de construire une arche, 100 ans pour la construire. Waouh, je me dis, mais Noé, quelle persévérance. Au bout de 100 ans, pardon, il a eu le temps de travailler, de se poser des questions, d'avoir des doutes, de lutter, de dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Je finis cette œuvre. Et finalement, au bout de 100 ans, cette œuvre, c'est la sienne. C'est-à-dire que c'est plus celle de Dieu. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que je m'approprie l'œuvre que Dieu me demande de faire. Mais quand Dieu me demande quelque chose, l'œuvre que je vais faire pour lui, elle n'appartient à Dieu. Elle ne m'appartient pas. D'ailleurs, quand Dieu va dire à Noé, viens, entre dans l'arche, en hébreu, c'est assez explicite, c'est viens me voir dans l'arche. J'habite dans l'arche. Viens. Maintenant que tu as travaillé pour moi, tu as construit, etc., l'œuvre, le bateau, l'arche, elle est à moi, viens me voir, j'habite dedans. L'idée, c'est presque ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a le déluge, on va dire une année sur les flots, et puis ben, le bateau est abandonné. Le temple, les hommes vont le construire, et puis à l'an 70, ben, le temple va être détruit, etc. Pourquoi j'explique ça? C'est parce que quand on est dans un système religieux, l'œuvre que je fais est plus importante que Dieu. Je tiens à ça. Mais dans la relation avec Dieu, quand je fais une œuvre, j'ai toujours cette conscience que cette œuvre, elle appartient à Dieu et pas à moi. Dieu a, dans sa pensée, des choses pour nous. Il est rempli de bénédictions pour nous. Il est rempli de choses qu'il veut que nous fassions à tout âge. À tout âge. Elles sont là-haut dans sa pensée et il veut que nous participions à cette œuvre-là. La religiosité, c'est aller dans ce que nous créons de nous-mêmes pour Dieu. C'est le point de départ, c'est moi, c'est ma force. Comme la tour de Babel, c'est la création d'une œuvre pour atteindre Dieu. Ça, c'est la religiosité. C'est d'aller dans ce que nous créons de nous-mêmes pour Dieu. La foi, c'est l'inverse, c'est entrer dans ce que Dieu il a pour nous. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais la foi, c'est vraiment ça. C'est que Dieu a des choses qui sont bonnes pour nous et il veut vraiment nous communiquer dans ce qu'il a en lui-même, dans sa vie, dans sa puissance, dans sa force. Il veut que nous participions à ce qu'il a prévu d'avance pour moi et pour nous. Voilà, je vous remercie. Gardons ces quelques points à l'esprit et on va remercier le Seigneur. Si vous voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que tu es un Dieu vivant qui veut pénétrer nos vies. Seigneur, tu n'es pas ce Dieu du système, ce Dieu de la religiosité. Seigneur, tu ne veux pas que de moi-même j'adhère à une idée, mais Seigneur, tu veux que, comme la Samaritaine, Seigneur, tu veux nous communiquer les sources de la vie qui sont en toi. Seigneur, pour que je puisse rayonner de ta vie, pour que je puisse témoigner de ce que tu es pour moi. Seigneur, je te remercie pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous enseigne. Seigneur, je te remercie, je remercie pour cette communauté ici, Seigneur, pleine de vie. Seigneur, parce que tu as imprimé en elle ton image. Seigneur, je demande de les bénir profondément. Seigneur, que tu puisses devenir un témoignage, Seigneur, de vivant, comme elle le fait déjà, Seigneur, dans ce quartier, avec tant d'habitations autour. Seigneur, merci pour ce que tu as préparé pour chacun de nous. Amen.